Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à toutes et à tous. Dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur la situation au Burkina Faso. Le CDP, l'ex-parti présidentiel et ses alliés ont suspendu leur participation au Conseil national de la transition. Décision qui fait suite à l'adoption la semaine dernière du nouveau code électoral et à la vague d'arrestations d'anciens collaborateurs de Blaise Compaoré. Rappelons que certaines dispositions de ce nouveau code électoral excluent des élections d'octobre prochain tous ceux qui ont soutenu le projet de modification de la Constitution sous le régime du président déchu. Alors, question, faut-il exclure les proches de l'ex-président des prochaines élections? L'arrestation de plusieurs collaborateurs de l'ancien président vous semble-t-elle justifiée? Enfin, l'ex-majorité présidentielle a-t-elle raison de suspendre sa participation au Conseil national de la transition? On lance le débat dans une demi-heure, je vous le disais à l'instant. Pour y participer, contactez-nous dès maintenant, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous écoutez en France. Mais d'abord, et comme chaque jour, vos questions à la rédaction. Georges est en ligne à Douala, au Cameroun. Bonjour, Georges.
Bonjour, Zéphirin. Bonjour à tous les auditeurs d'Appel sur l'actualité. Bon début de semaine à tous.
Merci infiniment, Georges. Vous êtes en ligne pour des questions sur la vie politique en France, notamment l'organisation des primaires à l'UMP pour les élections présidentielles de 2017. On vous écoute.
Oui, c'est exact. J'ai suivi que l'organisation des primaires dans le parti UMP avait une connotation particulière cette année. La première question, c'est de savoir, puisque l'UMP a voulu associer le parti centriste dans l'organisation de ces élections, alors je voulais savoir quel est l'intérêt pour l'UMP d'organiser ces élections en associant le parti centriste.
Très bien, pour vous répondre, j'accueille Véronique Rigolet du service politique de la rédaction. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors Véronique, c'est donc décidé, hein, l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, le principal parti de la droite française, organisera donc des primaires pour choisir le candidat au scrutin présidentiel de 2017. Ces primaires auront lieu les 20 et 27 novembre 2016 et ces primaires seront ouvertes à leurs alliés du centre. Le député UDI Hervé Morin y est favorable, mais le président de la formation politique de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, ne souhaite pas aborder le sujet avant le printemps prochain. En attendant, et pour revenir à la question de Georges, quel intérêt l'UMP a associé au Parti centriste, pour organiser ses primaires?
Oh bien, l'intérêt, il est tout simple, il est stratégique, bien sûr, c'est d'arriver unis droite et centre pour la présidentielle de 2017 et de faire bloc ainsi face à la gauche, car s'il devait y avoir deux candidats, un centriste et un droite pour la présidentielle, ça pourrait signifier l'élimination de la droite dès le premier tour face au candidat de gauche et face au candidat du Front National. Voilà pourquoi ces primaires de droite sont ouvertes au centre. C'est une stratégie d'alliance et de conquête qui a déjà fait ses preuves, qui a assuré en tout cas la victoire de la droite aux dernières élections départementales.
Voilà Georges, pour la réponse à votre première question. Vous aviez une autre question au moins encore, Georges?
Oui, j'ai une deuxième question. Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, pour le moment, malgré son élection à la tête de l'UMP, il a quand même des devoirs judiciaires qui ne sont pas encore réglés. Alors, est-ce que ces élections, ces primaires ne vont pas lui porter préjudice dans sa course pour la présidentielle de 2017?
Qu'est-ce qu'on peut répondre, Véronique, à cette question?
Ces affaires, c'est bien sûr une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de Nicolas Sarkozy. Son nom, vous le savez, est cité dans une bonne demi-douzaine d'affaires. Il est d'ailleurs mis en examen dans l'affaire dite des écoutes. Mais pour autant, à l'heure où nous parlons, il reste toujours l'ultra favori des sympathisants de droite pour ses primaires. Loin devant Alain Juppé, qui sera son principal challenger. Selon le dernier sondage IFOP, un sondage récent, Sarkozy est ainsi le candidat préféré de 62% des sympathisants UMP. Devant Juppé, 18%, et Fillon, lui, seulement 7%. Alors, Si les sympathisants de droite reconnaissent à Alain Juppé des qualités humaines, on notera également qu'il est le chouchou plus largement des Français, eh bien c'est l'ancien président Sarkozy qui apparaît, en tout cas pour les sympathisants de droite, comme le mieux à même d'emmener sa formation sur le chemin de la victoire. Et notamment, on lui crédite sa capacité à rassembler tout à la fois les électeurs de la droite et du centre. Et c'est une tendance qu'on voit dans les sondages, eh bien, qui s'est accentuée justement après cette victoire aux élections départementales. Ce qu'il faut dire également pour expliquer cet amour des sympathisants de droite pour Nicolas Sarkozy, eh bien, c'est qu'ils sont nombreux à voir dans cette accumulation d'affaires, eh bien, une sorte d'acharnement judiciaire contre leur ténor, contre Nicolas Sarkozy. Après le non-lieu qu'il a obtenu dans l'affaire Bettencourt notamment, eh bien, en tout cas, reste à savoir si une nouvelle mise en examen, on parle beaucoup de cette tentaculaire affaire Big Malion, est-ce que cela pourrait introduire le doute dans l'esprit des sympathisants UMP sur la capacité de Nicolas Sarkozy, eh bien, toujours à mener son parti à la victoire, à être le meilleur rassembleur. On verra, les primaires, c'est dans un an et demi, on verra si ce qu'on appelle notamment le lent poison des affaires pèsera ou pas. Et c'est en tout cas, je peux vous le dire, le rêve à peine secret, bien sûr, de François Fillon et d'Alain Juppé, qui ne rêvent rien d'autre, eh bien, que de voir Nicolas Sarkozy empêché, entravé par les affaires.
Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que ces affaires n'empêchent pas le candidat de la droite de recueillir des intentions favorables au sein de sa famille politique. Merci infiniment, Véronique Rigolet, pour cet éclairage. On va repasser par le standard. On va accueillir Sidiki, qui est à Sapoui, au Burkina Faso. Bonjour, Sidiki.
Bonjour à vous, Zéphirin, et bonjour à toute l'équipe de production d'Appel sur l'actualité.
Bienvenue, vous êtes à l'antenne, on écoute vos questions.
Ok, ma question porte sur la situation actuelle en Ukraine. En février dernier, l'on avait assisté à un accord de paix à Minsk entre les séparatistes pro-russes et le gouvernement ukrainien. Cependant, ces dernières semaines, on assiste à une recrudescence un peu des violences dans cette partie, dans cette région du monde-là. Alors ma question, c'est: peut-on dire que l'on assiste à un échec des accords de Minsk 2 et pourquoi un tel état de fait?
Très bien. Pour vous répondre, on accueille Marie Mendras, qui est politologue au CNRS et professeure à Sciences Po Paris. Bonjour Marie Mendras.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés. Je rappelle juste, avant que vous répondiez à cette question de Sidiki, je rappelle qu'en un an après le début de la guerre, l'est de l'Ukraine est toujours le théâtre de lutte entre séparatistes et nationalistes. En un an, cette guerre a fait, nous dit-on, plus de 6000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliers de déplacés. Si ces accords de Minsk auxquels fait allusion Sidiki, signé en février dernier, semble être plutôt respecté. Le cessez-le-feu, lui, reste fragile. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe indique avoir observé ces derniers temps une augmentation du nombre de violations du cessez-le-feu dans la région, notamment de Donetsk. Comment l'expliquer ?
Tout à fait. Depuis quelques jours, il y a un regain d'activité de l'armée russe dans l'est du Donbass, donc de la région de Donetsk et Lugansk. Oui. Et bah, écoutez, depuis un an, les Ukrainiens vivent au rythme donc des agressions de l'armée russe. L'armée russe soutient des commandos rebelles dans l'est de l'Ukraine et ces rebelles ne sont pas face à des nationalistes ukrainiens, si je peux me permettre de reprendre le terme. Ils se trouvent face à l'armée régulière ukrainienne qui, à la demande des institutions légitimement élues de l'Ukraine, parlement, président, gouvernement, fait tout pour faire respecter la souveraineté du pays. Donc l'agresseur n'est pas l'armée ukrainienne, l'agresseur sont des commandos. À l'intérieur de ces commandos, il y a d'ailleurs beaucoup de Russes, ce ne sont pas que des citoyens de l'Ukraine, et qui, bien entendu, s'ils n'étaient plus soutenus militairement et financièrement par Moscou, aurait déjà depuis longtemps lâché le combat. Donc l'OSCE, en effet, qui est d'une certaine manière l'un des garants De la deuxième tentative de cesser le feu qui date du 12 février dernier. Oui. L'OSCE est très inquiète car elle voit cette recrudescence d'actions russes, de livraison d'armes, de nouvelles troupes et surtout, semble-t-il, la formation à l'existence d'un centre de logistique russe à la frontière russo-ukrainienne. Et donc, le vrai problème, c'est que tout le monde est otage de la politique du gouvernement russe.
Mmh. Et d'ailleurs, l'OSCE a elle-même des difficultés à intervenir sur le terrain, à accomplir sa mission.
Oui. C'est une mission d'observation. Oui. Ils ne sont pas armés. Ils sont sur un terrain de guerre. Et ils n'ont, par exemple, même pas accès à toute cette partie tampon qui a été prévue dans le deuxième accord de Minsk en février. Ils n'ont pas accès à cette zone qui devrait être démilitarisée, évidemment qui ne l'est pas. Ils n'ont pas non plus accès à toutes les bases arrières russes à la frontière ou bien en territoire russe.
Alors Marie Mendras, est-ce qu'on peut dire que l'accord de Minsk 2 est un échec, ces accords-là?
Bien entendu, aucune des décisions de ce deuxième accord, qui est un accord formellement pour mettre en œuvre le premier accord de début septembre 2014. Oui. Donc sur les, je crois qu'il y a 12 points, puis un certain nombre de remarques dans ce document qui fait à peu près 3 pages, aucune de ces résolutions n'a été soit partiellement, soit entièrement mise en œuvre. Mmh. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis la réunion marathon du 12 février, les combats ont baissé en intensité. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un combat extrêmement dur qui avait commencé avant Noël avec des dizaines de morts chaque semaine des deux côtés, côté russe et côté armée régulière. Donc dans la mesure où il y a une moindre intensité des combats, les uns et les autres seraient tentés de s'en satisfaire, qui évidemment n'est absolument pas une solution parce que c'est une véritable poudrière. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, à Berlin, les 4 pays donc qui ont mené ces négociations...
Oui, l'Ukraine, la Russie, la France...
Russie, Ukraine, France et Allemagne doivent discuter de comment essayer de faire avancer la mise en œuvre de ces protocoles de Minsk.
Marie Mendras, vous restez avec nous. On va accueillir Guillaume, parce que sur le même sujet, Guillaume, qui nous appelle d'Abidjan, a aussi une question à vous poser. Bonjour Guillaume.
Bonjour Zéphia, bonjour à tous les militants de RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Voilà, on constate que les rebelles pro-russes ont occupé quelques positions importantes. Alors, il y a quelques mois, Barack Obama avait laissé entrevoir une possible livraison d'armes au régime ukrainien pour freiner l'avancée des rebelles. Mmh. Alors, aujourd'hui, quelle est la position ou la stratégie exacte des États-Unis au sujet de cette livraison d'armes?
Mmh. Très bien, merci beaucoup. Marie Mendras, alors sur le terrain, on l'a vu à plusieurs reprises, les forces gouvernementales, comme vous le précisiez, ukrainiennes, ont dû reculer face aux assauts des séparatistes. En février dernier, elles ont même abandonné la ville stratégique de Debaltseve aux séparatistes après une dizaine de jours d'affrontement.
C'est David contre Goliath. Hein.
Voilà. Alors, quelle est la force secrète justement de ces séparatistes et où en est-on de l'aide promise par Washington à Kiev?
Alors, il n'y a absolument rien de secret, hein. Tout est parfaitement documenté par toutes sortes de photographies, de films, d'images satellites. Tout le monde sait exactement, il suffit de vouloir regarder. Et l'OTAN, l'Alliance Atlantique, fournit absolument toutes les preuves de l'implication directe de l'armée russe, de la technologie russe, des armements russes. Il n'y a strictement aucun doute là-dessus. Mmh. Je suis toujours un peu étonnée quand, sur les ondes, parfois on a l'air de dire qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si les séparatistes, de nouveau, qui sont en partie des Russes, n'étaient pas soutenus par Moscou, ils ne seraient déjà plus en état de combattre. Alors la position américaine, c'est une question très importante que pose Guillaume. Et la question de soutenir de manière plus active l'armée ukrainienne, qui est faible par rapport à l'armée russe, Et c'est une question qui se pose depuis l'été dernier, et notamment depuis ce jour tragique de juillet, où un missile russe tiré par des rebelles a abattu un avion de ligne de Malaysian Airlines, très probablement par erreur, mais qui a montré à quel point les rebelles étaient munis d'armes sophistiquées et à quel point il fallait peut-être quand même aider directement l'Ukraine. C'est une question évidemment très compliquée. Aucun pays européen jusqu'à présent n'est très porté à s'impliquer par des livraisons d'armes. Sauf évidemment les pays frontaliers comme la Pologne et la Lituanie, et qui attendent justement beaucoup du soutien américain. Alors, il faut voir que l'administration Obama n'a jamais été pour la livraison d'armes létales. C'est le Congrès américain, c'est-à-dire à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, qui depuis le début sont pour une livraison d'armes et font pression sur le président Obama. Et la dernière résolution a été votée le 23 mars dernier par la Chambre des représentants, par une très large majorité, pour demander à l'administration Obama d'envoyer des armes. Hein. Alors évidemment, selon un protocole très précis, et c'est pas du tout une entrée en guerre des États-Unis, mais c'est un soutien logistique un peu plus pratique, un peu plus précis que ce qui se passe depuis plusieurs mois, où il y a quand même certaines aides à l'armée ukrainienne, mais en effet, pas de livraison d'armes capables.
D'armes létales, vous le disiez précédemment. Oui,
je ne sais pas très bien ce que c'est. Oui. Mais enfin, disons, des armes qui ne sont pas catégorisées comme simplement des instruments de défense contre l'agression.
Merci infiniment, Marie Madrance. Je rappelle que vous êtes politologue au CNRS et professeure à Sciences Po Paris. Marie Madrance, merci d'avoir été à nos côtés. On passe par le standard. Il nous reste quelques minutes pour prendre une question sur un autre sujet, sujet sport, avec Darwin, qui est à Dolisé, au Congo-Brazzaville. Bonjour, Darwin. Ou Darwin.
Bonjour, monsieur Mbanga Jean-Paul. Le Gabon a été désigné par la CAF comme organisateur de la CAN 2017. Pourtant, le Gabon a déjà co-organisé la CAN 2012. Bon, j'ai deux questions. Primo, quelles sont les raisons qui ont motivé cette désignation? Pourquoi les pays candidats comme l'Algérie et le Gabon ont été écartés?
Très bien. Merci beaucoup, Darwin, pour ces deux questions. C'est Eric Mamrut, qui est du service des sports, qui va vous répondre. Bonjour, Eric.
Bonjour, Zéphirin. Bonjour, tout le monde.
Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé la désignation du Gabon comme futur organisateur?
Alors, pourquoi le Gabon? C'est vrai qu'on avait comme grand favori
l'Algérie.
Cette désignation. Le Gabon est plutôt l'Algérie. Alors, le Gabon, Darwin le soulignait, le Gabon a déjà co-organisé la CAN en 2012 et ça s'était très, très bien passé. Donc, c'était plutôt un point positif pour la candidature gabonaise qui possède également de bonnes infrastructures. Il y a deux stades à Libreville et à Franceville qui sont déjà construits. Deux sont en cours à Port-Gentil et à Oyem. Mais le Gabon possède l'expérience des grandes compétitions sportives comme la Tropicale cycliste à Missabongo, le marathon de Libreville. Il y a également eu le trophée des champions de football en 2013. Issa Hayatou est proche également du Gabon et du président Ali Bongo. Ça joue dans ce genre de désignation, ce qui se joue en coulisses. Et dans l'ensemble, donc, le Gabon avait un bon dossier. Alors, pourquoi pas l'Algérie? Il faut dire que l'Algérie, on le sait, il y a des problèmes de sécurité au niveau des stades de football. On l'avait avec la mort d'Albert Ebossé, le joueur camerounais, l'an dernier. Il y a, il est vrai, une inimitié depuis quelques mois entre Issa Hayatou, le président de la CAF, et le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouawa. Et ça, cela joue dans les tractations de fin de vote. Et puis, il y a peut-être une certaine désaffection de la part de la CAF vis-à-vis du Maghreb après le retrait du Maroc de la CAN 2015, les problèmes avec la Fédération tunisienne. Cela a pu jouer. Un mot sur le Ghana, ce qui était plutôt un plan B. On ne voyait pas véritablement le Ghana organiser la CAN en 2017, le Ghana qu'il avait organisé en 2008.
Explication signée Eric Mamrut, merci infiniment et puis merci à vous Darvin de nous écouter au Congo-Brazzaville à Dolissé. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la seconde partie de l'émission.